Et finalement, elle reste. Mais on n'est pas passé loin de la crise politique. En tout cas, il y a eu psychodrame lorsque la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, a mis sa démission dans la balance face à une loi agricole inacceptable pour elle. Il faut dire que le texte ouvre la porte à l'utilisation de deux pesticides, des néonicotinoïdes dangereux pour l'humain et pour l'environnement. Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois un spécialiste des politiques agricoles, Pierre-Marie Aubert, à la question « Pourquoi recourir à ces produits ?», il me répond « Pour rien, si ce n'est pour rassurer certains agriculteurs, sans toutefois répondre à leurs vrais problèmes, les revenus et la concurrence, il y a pourtant des solutions, vous l'entendrez. » Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM, bienvenue.
Bonjour à tous. En effet, la démission de Monique Barbu était attendue. Elle quitte donc le gouvernement en cause. L'adoption définitive par le Sénat hier de la fameuse loi d'urgence agricole. Elle avait été adoptée déjà et votée la veille par l'Assemblée nationale. Le texte qui a réintroduit...
Elle est la 8e ministre de la transition écologique d'Emmanuel Macron. Monique Barbu, 4e dans le rang protocolaire de ce gouvernement Le Cornu. Et la voilà qui, ce mercredi 22 juillet, se rend à l'Élysée pour remettre sa démission au président de la République, comme l'avait fait son prédécesseur Nicolas Hulot 8 ans plus tôt. Mais finalement...
Le président de la République a refusé sa démission.
Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement.
Et ils se sont en revanche accordés sur trois piliers fondamentaux qui fondent son action. La question des forêts, la question de l'eau et la question de la santé environnementale. Trois piliers, trois chantiers donc sur lesquels Monique Barbu a accepté de rester... pleinement investie. Monique Barbu, c'est quelqu'un d'entière. Si elle a fait le choix, si elle a fait ce choix, c'est qu'elle estime que les conditions sont désormais réunies et qu'elle a eu les garanties, encore une fois, de la part du chef de l'État et du Premier ministre pour mener à bien ses objectifs.
Toutefois, voilà, il y a bien eu un désaccord au sein du gouvernement. En cause,
une loi d'urgence agricole.
La loi d'urgence agricole.
Loi d'urgence agricole.
Ce projet de loi est une réponse aux revendications des agriculteurs dont certains s'étaient mobilisés l'hiver dernier. Ce texte, c'est la 3e loi agricole en 3 ans. Il est présenté par le gouvernement comme un texte d'apaisement. Et au départ, la ministre de l'écologie, Monique Barbu, est confiante. Jusqu'à ce lundi 20 juillet. Le drame se noue autour de deux produits phytosanitaires, l'acétamipride et le flupyradifurone, des néonicotinoïdes, des pesticides qui protègent les cultures, mais qui sont dangereux pour l'environnement, notamment en perturbant le système nerveux des abeilles, les désorientant, en raison d'effets sur des récepteurs dont les humains sont eux aussi dotés. Alors selon de nombreux scientifiques, l'exposition à ces substances peut entraîner des problèmes de développement neurologique chez le fœtus, mais aussi des cancers, des malformations cardiaques ou encore des maladies rénales chroniques. L'acétamipride est donc interdit en France depuis 2018 et le sera dans l'Union européenne à l'horizon 2033, le flupyradifurone à l'horizon 2029. Retour à la politique. En mai, Sébastien Lecornu avait prévenu les agriculteurs. Pas question d'autoriser ces pesticides dans la loi. Ce qu'a pourtant décidé de faire le Sénat, idée maintenue jusqu'au bout dans le texte. Juste avant le vote final, toutefois, Sébastien Lecornu aurait pu permettre aux parlementaires de dire oui ou non sur ce volet consacré aux pesticides, mais il ne l'a pas fait. Et donc, maintient cette partie de la loi. Une dérogation est accordée à ces deux pesticides, avec un garde-fou, l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, qui doit donner son feu vert lorsqu'il y a besoin, et seulement si la sécurité des hommes et de l'environnement est respectée. Explication de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard.
Seul l'ANSES pourra, à titre exceptionnel et pour des usages précisément définis, autoriser une dérogation au regard des enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Si l'ANSES estime que les conditions ne sont pas réunies, aucune dérogation ne pourra être accordée. Si à l'inverse, elle considère qu'elles le sont, une dérogation pourra être délivrée dans le cadre fixé par la loi.
Et seulement pour 120 jours, ce qui fait dire au Premier ministre Sébastien Lecornu que...
Le principe est l'interdiction. L'exception, c'est une dérogation sur un segment très précis, uniquement pour les raisons de culture que vous connaissez par ailleurs, je n'y reviens pas.
C'est donc cette partie du texte qui dérange la ministre Monique Barbu. Et pourtant, la loi est adoptée par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, sans que les parlementaires n'aient l'occasion de faire entendre leur opposition à ces deux pesticides.
C'est un véritable piétinement de la démocratie parlementaire, un de plus.
Aurélie Trouvé, députée La France Insoumise.
Avec une grande lâcheté du bloc macroniste, à part quelques-uns, et avec évidemment la complicité pleine et entière de la droite, de tous les alliés d'Édouard Philippe, et évidemment le soutien du Rassemblement National.
Mais la méthode fracture même le camp présidentiel. Comme ces deux députés qui ont voté contre la loi, Éric Botorel est pourtant député macroniste, et Pascal Lecamp, député Modem.
Alors, j'ai été déçue de cette décision.
Yael Braun-Pivet est la présidente de l'Assemblée nationale.
Et donc je suis toujours extrêmement gênée que des dispositions telles que celles-ci, dont on sait à quel point elles heurtent nos concitoyens et en témoignent les 2 millions de signataires de la pétition sur la loi du plomb l'année dernière, ne puissent pas être débattues par l'Assemblée nationale.
Et de leur côté, qu'en pensent les agriculteurs ? La FNSEA défendait de longue date le recours à ces néonicotinoïdes. Alors sans surprise, Arnaud Rousseau, son président, juge que...
Parce que continuer à produire une alimentation de qualité, soutenir la souveraineté alimentaire a du sens pour nous. Ça n'était pas gagné, c'est aujourd'hui une avancée. Alors je suis conscient que ça ne règle pas tout, que le changement climatique et la canicule qui nous heurte en ce moment posent d'autres problèmes. Mais notre rôle, c'est de nous structurer pour continuer à proposer des solutions.
À l'inverse, la Confédération paysanne y voit une régression.
Pour nous, la loi d'urgence agricole n'a rien de loi d'urgence. Elle ne répond en rien aux préoccupations des paysans et des paysannes. Et les deux mesures vraiment hyper graves de ce texte de loi, c'est le retour de l'acétamipride, enfin des néonicotinoïdes qu'on sait hyper dangereux pour la santé. La fameuse loi du plomb 2, qui pourtant avait fait monter un rapport de force au sein de la société civile avec plus de 2 millions de signatures lors d'une pétition l'été dernier. Ça passe à la trappe tout ça.
Bonjour Pierre-Marie Aubert.
Bonjour.
Vous êtes directeur du programme Politique agricole et alimentaire à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. On connaissait donc l'acétamipride. Ce texte autorise également l'emploi d'un autre pesticide, le flupyradifurone, deux néonicotinoïdes. Mais qu'est-ce qui les différencie ?
Alors, ce que nous dit la science sur ces deux pesticides qui fonctionnent différemment, hein, le flupyradifurone, c'est un pesticide qu'on appelle en enrobage, donc on enrobe les graines avec et du coup, il a un effet systémique. Et puis, donc l'acétamipride est plutôt appliqué une fois que la plante a grandi. Ce sont des pesticides qui ont un effet majeur sur les insectes, notamment les insectes pollinisateurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment que ces deux pesticides-là, on les réintroduit pour faire face à des risques de maladies qui, lorsqu'elles se déclarent, mettent la filière en difficulté. Sauf qu'elles ne se déclarent pas du tout toutes les années, et que par ailleurs, sur le flupyradifurone, puisque c'est un enrobage de semences, le choix se fait avant même de savoir quelle est la pression de ravageur. Donc, on ne peut pas dire en amont « Ah oui, on va utiliser cette... insecticide en enrobage parce qu'on sait qu'il y a un fort risque cette année parce que les ravageurs sont très présents. » Non, en fait, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Donc c'est assez étrange de voir que la condition pour l'utilisation du flupyradifurone, c'est s'il y a un risque avéré pour les cultures, parce qu'en fait, on va le mettre en enrobage en amont sans avoir de connaissance de l'état de pression des ravageurs. Donc c'est assez étrange.
Avec une autorisation qui n'est pas un feu vert absolu, il faudra une autorisation de l'ANSES qui décidera ou non d'une dérogation de 120 jours pour l'utilisation de ces deux néonicotinoïdes. Ça a un sens d'avancer comme ça ?
Ça a un sens pour les betteraviers, très certainement, qui, pour eux, le fait de disposer de ces molécules-là, c'est quelque part une espèce d'assurance. Une assurance contre... la jaunisse du puceron, et ça leur permet en fait de s'assurer des rendements et de ne pas avoir entre guillemets de crainte en absence de tout autre impact extérieur. Maintenant, est-ce que ça a un sens pour la société, pour les agro-systèmes et pour l'environnement ? C'est un petit peu plus discutable. La vraie question étant, à mon sens, plutôt de savoir comment est-ce que socialement, économiquement, on crée des garanties suffisantes pour les agriculteurs pour qu'ils ne ressentent pas le besoin d'aller s'assurer, entre guillemets, avec ces molécules-là, dont les impacts environnementaux et sur la santé humaine sont assez clairs.
Oui, parce que l'acétamipride, notamment, avait été interdit en 2016 au nom du principe de précaution. Ce principe, il ne vaut plus ce qui prime en termes d'agriculture aujourd'hui. C'est le rendement, c'est la compétitivité.
C'est sûr qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle cette loi est là, avec toutes ces dispositions, incluant les pesticides, mais pas uniquement, une des raisons, c'est quand même que l'agriculture française, en termes de compétitivité prix, c'est-à-dire la capacité à produire quelque chose au même coût de production que nos voisins, bat de l'aile, entre guillemets, mais pour des raisons qui sont essentiellement physiques. La force des promoteurs de ce texte, ça a été de faire croire que la raison principale pour laquelle l'agriculture française est en difficulté sur le plan économique, c'est du fait des contraintes environnementales, ce qu'ils appellent des contraintes environnementales. Or, si on regarde de manière un petit peu objective ce qui se passe depuis 40 ans, même depuis 15 ans, sur une bonne partie des régions agricoles françaises, ce qu'on voit, c'est carrément une réduction des rendements de l'agriculture dans tout ce qu'on appelle la zone intermédiaire, donc ce qui est au sud de la Loire, pour aller vite, Charente, jusqu'à une partie de la Bourgogne, etc. Et cette baisse des rendements, elle est liée aux effets du changement climatique, à l'appauvrissement des sols, à la simplification des systèmes. Et je veux dire, c'est pas parce qu'on aura fait sauter des réglementations environnementales que les agriculteurs ils vont récupérer du rendement. Et on parle pas de petites baisses de rendement. On parle de moins 10, moins 20, moins 30% de rendement sur certaines cultures dans ces régions-là depuis les 20 dernières années. Et évidemment, moins de rendement, c'est moins de compétitivité pour l'agriculteur et c'est plus de difficultés à vivre.
D'autant qu'on se souvient que ce qui avait motivé l'écriture de cette loi, c'était les manifestations d'agriculteurs pendant l'hiver avec en jeu la crise de la dermatose nodulaire contagieuse qui décimait les élevages. En fait, ce texte, il ne répond pas du tout à cette question initiale.
Alors le texte, il fait très peu de choses, si ce n'est zéro, sur la question de la santé animale, sur la production animale. L'essentiel de ce que fait ce texte, c'est de faciliter l'extension des élevages, et notamment des bâtiments d'élevage.
Élevage intensif qui, en plus, favorise le développement de ces maladies.
Pour partie, donc ça c'est un débat entre spécialistes assez complexe. Effectivement, quand on a des élevages très intensifs, on a à la fois, entre guillemets, plus de biosécurité potentiellement, parce qu'on a plus de contrôle de ce qui rentre et de ce qui sort dans l'élevage, mais on a beaucoup plus de contagiosité et que donc du coup, dès qu'il y a quelque chose qui se grippe, c'est pas bon pour l'ensemble de l'élevage concerné. Donc c'est un peu à double effet. Mais ce qui est certain, c'est que ces élevages-là, l'idée des agriculteurs français qui poussent pour cette loi-là et des législateurs qui l'ont adoptée, c'est de dire les élevages français ne sont pas à l'échelle par rapport à leurs concurrents d'abord européens, je parle même pas du Mercosur ou du reste du monde, et donc pour regagner en compétitivité prix, il faut aller chercher des économies d'échelle, il faut faciliter l'agrandissement des élevages, et donc, d'où ce texte, pour permettre en fait des élevages de plus grande taille qui vont en fait favoriser les économies d'échelle et la compétitivité prix.
Au moment où cette loi est votée, la France est déjà touchée par trois canicules en cet été, et les fermes en France enregistrent des pertes liées justement à ces canicules, à la sécheresse aussi. L'idée de la loi, c'était pas de répondre au contexte dans lequel elle était débattue, mais tout de même, dans le texte, rien ne pourrait aider les agriculteurs à répondre à ce dérèglement climatique qui touche à leur rendement.
Vous pouvez le voir du point de vue de celui qui va bénéficier de l'irrigation, facilité par le développement des retenues d'eau par le texte, qui vont vous dire, si j'ai de l'eau, je m'en sortirai beaucoup mieux. Mais c'est une telle minorité, ces agriculteurs qui vont pouvoir bénéficier du stockage, vu le type de stockage qu'on envisage.
Des stockages très importants qui seront plus facilement développables en zone humide, notamment.
Mais fondamentalement, effectivement, ce qui est en jeu là, c'est pour une petite partie des agriculteurs de disposer d'un accès à l'eau facilité dans les périodes, ce qu'on appelle les périodes d'étiage, donc les moments où il y a peu d'eau qui tombe du ciel, pour aller vite. Là, on essaye de créer une autre sorte d'irrigation, c'est-à-dire dans des territoires où il n'y a pas d'eau qui arrive de manière exogène, donc on n'a pas d'eau qui arrive par une rivière, on n'a pas d'eau souterraine, et donc on veut retenir l'eau quand il pleut l'hiver. Donc c'est vraiment localisé dans certaines régions, et majoritairement ce sont des agricultures, ce qu'on appelle des grandes cultures. Donc ça peut potentiellement aussi aller aider de l'irrigation de prairies temporaires, voire de prairies permanentes pour une partie de l'élevage bovin dans ces zones-là. Mais voilà, principalement, on va quand même pas dépenser autant d'argent pour des bovins, parce que ça rapporte pas beaucoup, donc ça va surtout être des grandes cultures, surtout dans ces régions donc, où il y a très peu d'eau qui arrive par les rivières ou d'eau dans les nappes.
Mais cela risque donc de se faire au détriment de la biodiversité. On a en fait l'impression que c'est impossible en termes d'agriculture de dépasser cette contradiction, la compétitivité, la productivité d'un côté, les objectifs sanitaires et d'environnement de l'autre. C'est indépassable.
Ce qui est difficile à dépasser, c'est les conditions de marché dans lesquelles on est. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la compétitivité prix des élevages ou des grandes cultures, hein, pour prendre des exemples très concrets, elle est principalement liée à la productivité unitaire hein, de l'hectare ou de l'animal, c'est-à-dire combien de blé je produis par hectare, combien de tonnes de lait je produis par vache, que multiplie, pour faire simple, hein, le nombre de vaches que gère un agriculteur ou le nombre d'hectares que gère un agriculteur, pour ainsi dire la taille des fermes. Et ce qui s'est passé en fait en France sur les productions végétales, c'est que pour une bonne partie, en fait, on a été les plus rapides et les meilleurs, entre guillemets, hein, dans les années 80-90, à intensifier notre agriculture, c'est-à-dire à améliorer nos rendements unitaires. Et donc plus rapide que les autres, et donc on a atteint plus vite que les autres un plafond. Donc on a été très compétitifs pendant très longtemps. Et puis là, bah, en fait, depuis 20 ans, on n'arrive plus à être compétitifs parce que nos gains de rendement sont devenus trop faibles, parce qu'on est face à des limites physiques. Pendant que les autres, eux, continuent à faire des progrès sur leur productivité, et donc en fait arrivent à mieux se positionner sur un ensemble de marchés de ce qu'on appelle des commodités, c'est-à-dire des produits standards, céréales, de la viande de bœuf, du lait en poudre, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut aller rechercher, pour lever cette contradiction, entre guillemets, on peut aller chercher deux choses. On peut aller chercher des points de compétitivité prix, c'est-à-dire la capacité à sortir des produits à un bon coût de production, sur l'industrie, parce qu'on a un vrai sujet d'industrie agroalimentaire française qui est moins compétitive que ses homologues européennes. Mais il y a un deuxième levier hein, pour aller chercher quelque part de la compétitivité, c'est aussi d'aller chercher de la compétitivité, ce qu'on appelle hors prix. C'est-à-dire aller chercher une singularité de la production, notamment de la production, ce qu'on appelle en aval, c'est-à-dire aller ajouter des singularités aux produits indépendamment de la production en amont.
C'est-à-dire concrètement, c'est quoi? Ça veut dire des produits de meilleure qualité, des produits bio?
Mais, en fait, ça, c'est souvent, on se dit, la compétitivité hors prix, c'est faire du bio. En fait, c'est pas vrai. Si vous allez au supermarché, vous regardez dans les étalages, vous avez tout en bas du rayon de supermarché le produit bas de gamme, standard, machin. Mais après, vous avez une très très forte, ce qu'on appelle segmentation de marché. C'est-à-dire, vous avez une très grande diversité de produits. Donc, vous pouvez aller chercher des singularités sans nécessairement aller dans le très haut de gamme. Se singulariser, c'est pas forcément se mettre au-dessus de tout le monde.
Pour qu'on imagine, c'est quoi? C'est aller chercher une variété que les autres n'ont pas, aller chercher un fruit, un légume qu'on ne trouvera pas ailleurs?
Ben, par exemple, sur les fruits et légumes, je vais donner un exemple parce que vous parlez de ça. Il y a plus de 10 ans, les Espagnols ont investi dans la pêche plate. C'était une singularité. Aujourd'hui, la pêche plate, c'est ce qui marche. Et les Français sont arrivés trop tard, ils n'ont pas réussi. Mais c'est pas parce que la pêche plate marche bien qu'elle est beaucoup plus chère. Simplement, à un moment donné, on a créé une espèce d'innovation sur le marché qui a plu. Et les Espagnols, ils ont réussi à s'engouffrer là-dedans et à inonder le marché avec leur pêche plate et à rendre moins attractives nos pêches pas plates. Donc, en fait, c'est réussir à trouver un angle, une manière de valoriser le produit, pas forcément beaucoup plus cher, mais qui va le singulariser à l'intérieur de l'étalage et donc qui va, en fait, favoriser son écoulement sur le marché domestique comme éventuellement sur le marché export, au moins européen. Ça, aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose sur lequel les acteurs français n'investissent pas assez.
Merci, Pierre-Marie Aubert, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci beaucoup à vous.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Nel Obeuf qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.